C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
Alors, un des sujets chauds au Québec, c'est toute la question de l'immigration. Et hier, le premier ministre Trudeau a dit tout simplement, devant des revendications à venir du Québec, ben la province a déjà tous les pouvoirs nécessaires en matière d'immigration, tout va très bien. Alors, est-ce que M. Trudeau a raison? Est-ce que le Québec doit aller en chercher plus ou non? Nathalie.
Ben, désolé, Luc, de te faire fâcher ce matin, là, mais oui, Justin Trudeau a raison. Justin Trudeau a raison. Depuis 1991, le Québec possède presque tous les pouvoirs en immigration. Il est responsable de la sélection, de l'accueil, de l'intégration des immigrants. Il est responsable de l'immigration économique. C'est un grand, grand volet au Québec. Le volet le plus important, ça touche les travailleurs qualifiés, les gens d'affaires. Mais il y a aussi le volet réfugié dont le Québec est responsable. La seule catégorie qui échappe au Québec, c'est celle touchant la réunification des familles. Alors moi, je vois les choses aller entre Québec et Ottawa. Même le premier ministre, François Legault, nous promet peut-être un référendum sur la question touchant l'immigration, question de, justement, améliorer notre rapport de force face à Ottawa et pousser le gouvernement de Justin Trudeau dans les câbles pour qu'il puisse se rendre aux arguments du Québec. Moi, ce que je dis ce matin, c'est la dernière chose dont on a besoin, c'est un référendum sur l'immigration et deux, c'est une chicane entre Québec et Ottawa. Il y a bien des choses à régler avant d'obtenir plus de pouvoir en immigration et concrètement, c'est, puis j'en parlerai dans quelques instants, là, mais les délais d'attente, le délai de traitement des dossiers, l'émission des permis pour les travailleurs temporaire. Enfin, beaucoup, beaucoup de choses à régler bien avant de se lancer dans une autre guerre Québec-Ottawa sur cette question.
Moi, je suis arrivé à la conclusion que Trudeau est un grand fendant.
Peu importe la nature du sujet, tu seras arrivé à cette conclusion.
Non, c'est pas vrai. Des fois, t'as été surprise de voir les compliments que j'envoyais dans cette direction. Tu sais que moi, c'est jamais unidimensionnel, Nathalie. Moi, là, je suis capable de boire une bière avec n'importe quelle des personnes que je critique, là. Puis dire du bien de lui toute la soirée. Puis de son épouse. Mais toujours est-il, c'est un grand fendant. Regarde, il y a d'horribles, horribles délais sur les travailleurs temporaires. Il y a un article aujourd'hui là-dessus. Dans les médias. Il y a d'innommables délais pour les réfugiés. Il y a d'incroyables délais pour les demandeurs d'asile qui sont arrivés sur place, mais dont on doit attendre 3 ou 4 ans pour savoir si ce sont des demandeurs légitimes. C'est des délais titanesques dans l'immigration, le processus d'immigration, là, à partir du début jusqu'à la résidence permanente. Fait que faire le genre dans ces conditions-là, faut que tu sois offendant. Je veux dire, ce gars-là n'a aucun contrôle. Tu sais, c'est un pays du tiers-monde, le Canada. Pour des standards de délai et de temps de traitement des demandes, c'est un pays du tiers-monde. À peu près égal avec le Bangladesh ou l'île Maurice. Fait que quand t'es premier ministre d'une nation riche, une des nations les plus riches du monde, puis que t'es avec ce genre de fonction publique-là, puis t'es pas capable de l'améliorer année après année, garde-toi une petite gêne avant de dire que tout est sous contrôle.
Il dit pas que tout est sous contrôle, Luc. Par contre, là où je te suis, c'est sur les délais. Ce matin, lisez l'article du Journal de Montréal. Le travailleur étranger temporaire, la lenteur immonde du fédéral freine les entreprises du Québec de 6 mois à 1 an et demi avant d'accueillir un travailleur étranger temporaire. Savez-vous combien ça coûte faire venir un travailleur étranger temporaire? Ça a rendu 10 000 $ par travailleur. Voyons donc si ça a du bon sens. Moi, je pense, Luc, que et Ottawa et Québec devraient se regarder le nombril avant de scraper chignon. Par exemple, au Québec, on devrait, mettre des efforts sans précédent pour la francisation de nos immigrants, parce que on le dit, là, politiquement, là, on le dit, là, on entend M. Legault dire, c'est important, la francisation. Quand tu regardes l'argent disponible, les programmes disponibles, tu fais, oh, attends une minute, il y a loin de la coupe aux lèvres. Mmh. L'autre chose, la reconnaissance des acquis. C'est absolument aberrant de voir à quel point certains immigrants sont qualifiés et ne peuvent pas faire reconnaître leurs compétences, leurs diplômes ici au Québec. Ça, c'est une autre hérésie, et puis on devrait se pencher là-dessus urgemment. Alors moi, je dis, Luc, ce matin, qu'il y a des choses beaucoup plus urgentes que de se lancer des tomates de part et d'autre, parce que sais-tu quoi? Ça va devenir personnel, ce débat-là, entre François Legault et Justin Trudeau.
Ça l'est déjà, Nathalie, t'as raison.
Ça l'est déjà,
mais regarde, quand Legault est arrivé au au pouvoir en 2018, la première chose qu'il a fait, premier move, il n'y avait pas le pied dans le Parlement encore, qui a dit « je vais récupérer des pouvoirs en immigration ». Pourquoi? Parce que il voulait à l'époque mettre le test des valeurs, puis il voulait modifier les paramètres, la répartition du nombre d'immigrants. Tu as plusieurs catégories. Hein. Tu as les demandeurs d'asile, tu as la réunion des familles, tu as les immigrants économiques ou les immigrants reçus, sélectionnés par la province. Et lui voulait avoir moins de réfugiés à peu près deux semaines après que Trudeau a dit qu'il fallait que le Canada accueille plus de réfugiés. Alors, il est mal parti, là. C'était pas des négociations, là. C'était tout de suite un combat de coq.
Mais est-ce qu'on peut dire de façon générale que le fédéral est incompétent quand il est question d'offrir des services directs à la population?
Paul, le fédéral est persuadé qu'il n'a pas à mettre son nez dans la fonction publique. C'est typique. Je ne sais pas si c'est typique de la gestion britannique des affaires publiques ou si c'est une tare particulièrement pour le Canada. J'aimerais bien l'analyser. J'ai pas eu le temps d'analyser. Mais une chose est certaine. Tu sais, le mur qui est censé y avoir entre le politique et la police, les maires et mairesses ne sont jamais censés s'occuper, ou d'ailleurs les premiers ministres, de la gestion de la police. Duplessis faisait le contraire, on s'entend que c'était Duplessis. Mmh. Donc, t'es pas supposé. Je pense qu'ils ont importé cette idée-là sur l'ensemble de la fonction publique. Monsieur Duclos a toujours pris au dépourvu. Il sait jamais, il y a pas de chiffre. Il sait pas exactement c'est quoi le nombre de nouveaux employés affectés à la tâche. Il a tout le temps l'air d'être à un millier de kilomètres de Service Canada. Je ne comprends pas cette affaire-là.
Ouais, mais le fédéral, ce n'est pas un opérateur. Oui, je sais, mais c'est ça le problème. Prenons par exemple le secteur de la santé, là. Il y a la loi canadienne sur la santé. Ça, c'est des grandes orientations au pays en matière de santé pour assurer l'universalité des soins, l'accessibilité des soins. Mais quand le fédéral nous dit veut établir des normes nationales, par exemple, pour les CHSLD ou toute autre chose. Non seulement ce n'est pas de ses affaires, ça relève des provinces, et les provinces et les territoires sont les mieux placés pour s'occuper de santé et d'éducation. On pourrait dire la même chose pour le municipal par rapport à certains services qui sont donnés.
Oui, mais l'immigration, Nathalie, l'immigration, c'est une fédérale.
Oui, mais non, c'est une compétence partagée entre Québec et Ottawa.
D'accord, mais les fonctionnaires sont fédéraux.
Mais par exemple, pour l'émission de la résidence permanente, OK, ça relève pas de Québec, ça relève d'Ottawa. Moi, je pense que ça doit demeurer comme ça. Mais je veux qu'on parle de la
prémisse
sur laquelle...
Mais ils sont pas bons dans la livraison des services.
Oh, on s'entend, Paul, on s'entend absolument là-dessus, là. Puis c'est pour ça que je dis, plutôt que de chamailler, là, il me semble qu'il y a des choses plus urgentes à régler qu'on veut avoir plus de pouvoir d'Ottawa. Monsieur Legault part de la prémisse suivante. Il dit, le fait de contrôler notre immigration nous permettrait de stopper le déclin du français. Bon, il dit, ça nous prend tous les pouvoirs pour y arriver. Moi, j'ai un bémol par rapport à ça. Je sais pas ce que t'en penses, Luc. Je trouve que ça a l'air plus d'une manœuvre politique que d'une réalité fondée. Et ce que je dis, c'est que, me semble que c'est pas parce que tu vas gérer la seule catégorie qui reste, c'est-à-dire la réunification des familles. Il me semble que ça, M. François Legault semble nous dire que si je règle ça, là, ben, le français va stopper. Excusez-moi, là. Le débat commande un peu plus de nuances que ça.
OK, donc
là.
C'est vrai qu'il peut pas mettre de critères linguistiques sur la réunion des familles. Donc, il est un peu légitime de dire que ça pose problème. Ceci étant dit, tu as raison que c'est loin d'être la seule question pour défendre le français au Québec. J'aimerais ajouter un dernier point, si c'est possible. Moi, je considère que Trudeau a moins de poids dans l'histoire du Canada que le pied de céleri dans la grande cuisine française. C'est que complètement absent, le céleri dans la grande cuisine française. Non. Mais quand tu reviens du buffet avec trois branches de céleri dans ton assiette, c'est parce que le reste est à l'avenant.
On va aller à l'autre sujet après la pause. L'image du pied de céleri est toujours bonne. C'est-à-dire que on va parler d'Université McGill qui prend pas de sanctions, pas de réprimande pour l'instant pour un prof qui se réjouit de la mort des femmes qui manifestent en Iran.
La commission Normando-Ferrandaise.
Alors, l'Université McGill, pour l'instant, n'a pas l'intention de prendre des mesures, des sanctions contre un chargé de cours qui, sur Twitter, a tenu des propos inqualifiables en disant qu'il se réjouissait de voir l'exécution de centaines de femmes qui manifestent en Iran depuis maintenant quelques semaines. Depuis ce temps, il a retiré toutes les publications. Et puis là, je ne peux pas faire autrement que de comparer avec ce qui s'est passé à l'Université d'Ottawa, puis voir l'attitude de McGill. Alors, est-ce que McGill fait bien de ne pas le réprimander, Luc?
Hey, tu sais, une expression française qui dit anguille sous roche, il n'y a pas anguille sous roche, il y a éléphant sous roche. Là. Comment ça se fait que McGill ne réagit pas? Sont-ils en télétravail? Ça se pourrait, tu sais, ça c'est une possibilité. L'autre possibilité, tout le service des ressources humaines en télétravail, puis la doyenne.
On a appelé hier pour avoir une réaction, puis un commentaire, ouais. Puis c'est la réponse, c'est non.
OK, ben alors, voyons. Premièrement, plusieurs affaires. La déclaration de M. Chareri, d'une part, est haineuse. Il faut regarder la définition légale de haineux. Ça appartient aux avocats en déterminant mais qu'il serait bon et réjouissant de vivre l'exécution de centaines de moudjahidines. Il parle des femmes qui font des manifestants. Qu'il serait bon et réjouissant de les voir ces femmes se faire assassiner. Ça, c'est-tu une déclaration haineuse? Ben, moi, je pense que oui, mais on demandera à des avocats. Et McGill a eu des histoires dans le passé. Grave de dissension avec l'association des professeurs pour avoir pénalisé des profs, suspendu des professeurs. Rappelez-vous qu'en 2021, McGill a suspendu une professeure parce qu'elle a suggéré 8 livres synthétisant selon elle la littérature québécoise ancienne à ce jour, du début à ce jour. Dans un de ces livres-là, à la page 99, d'un livre qui a été écrit en 1863, l'auteur dit qu'à cette époque, les Québécois travaillaient comme des haines. Ben, la professeure a été suspendue. Donc, là, que ce gars-là puisse écrire quelque chose et ne pas être suspendu, ils peuvent s'accrocher à une phrase, ils peuvent dire « Oui, mais la prof, elle le dit dans les murs de McGill, tandis que Chariari le dit à l'extérieur des murs de McGill. » Sauf que l'enseignement, ce n'est plus mur ou pas mur. Maintenant, avec le télétravail et avec le téléenseignement, les publications des professeurs sont sur Internet, les cours parfois se donnent sur Internet, les questions des étudiants se font parfois sur des réseaux sociaux. Tu peux pas dire il y a une distinction entre ce qui se dit dans mes murs et ce qui se dit en dehors des murs.
Nathalie?
Moi, je ne savais pas que l'incitation à la haine, c'était une valeur qu'embrassait, que partage l'Université McGill. J'étais comme toi là, comme vous deux, comme plusieurs personnes au Québec, une grande majorité selon moi là, honte à l'Université McGill, honte à Sorouche Chariari pour son discours haineux. L'Université confond liberté d'expression, discours haineux. D'ailleurs, dans sa réaction officielle, elle ne souhaite pas accorder d'entrevue, Paul, ça se comprend parce qu'ils vont manger une volée de bois vert. Leur prise de position est totalement indéfendable. Ils ont affirmé là, l'Université offre le meilleur soutien aux étudiants iraniens qui fréquentent l'établissement. C'est ce qu'on a compris. Et là, je cite, elle doit aussi tenir compte de la protection que notre société accorde à la liberté d'expression, même lorsque les idées exprimées sont de mauvais goût ou blessantes. Excusez-moi, là. C'est pas les idées, là, les propos tenus par M. Chariari n'ont rien à voir avec le mauvais goût blessant, là. C'est une incitation à la mort, à la haine. Et Luc, on n'est pas avocat, toi puis moi, j'en conviens, mais l'article 319 du Code criminel prévoit des sanctions pour des propos haineux. Et petit rappel aux gens de l'Université McGill qui seraient peut-être à l'écoute ce matin, ce qui se passe en Iran actuellement, des manifestations dans plus de 90 villes. Les manifestants sont tirés à bout portant par les forces de l'ordre. Actuellement, il y a presque une centaine de morts, 92 morts selon les chiffres officiels. Probablement que ceux et celles qui sont arrêtés par les autorités sont torturés en prison. Tout ça est lié, bien sûr, on s'en rappelle, à la mort, est lié à la mort de Mahsa Amini, qui, parce qu'elle n'avait pas installé son foulard, a été arrêtée par les autorités, puis elle est morte dans des circonstances.
Écoute, la dernière version qui est sortie sur les circonstances de sa mort, elle aurait fait un malaise cardiaque alors qu'elle suivait une formation pour porter correctement le voile.
La formation.
Je te jure, j'ai lu ça ce matin, j'étais sans mots. Ça, c'est la version officielle.
Ben, mais tu parlais, Paul, de deux poids, deux mesures avec Ottawa. Verouchka, lieutenant Duval, est dans le cadre de son cours, prononce le mot banni en haine, puis elle le fait sans méchanceté aucune, sans animosité. Et là, tu vois ce gars-là, puis parce que il a fait ça en dehors des murs d'université, ben on doit être compatissant, on doit être compréhensif. Excusez-moi, il y a un homme et une femme. Je sais pas si ça, je veux pas entrer dans vous servir des arguments là féministes à outrance, mais ce qui me frappe, c'est qu'on a une femme d'un côté qui a vécu l'enfer, abandonnée arrivé par son université. Puis de l'autre côté, ben, t'as un chargé de cours qui, lui, est mort de rire, peut dire ce qu'il veut, ben, sur les réseaux sociaux.
Puis tu sais qu'il y a plusieurs. Demain, il y a peut-être une source de revenus différente, là. On sait pas. Il y a des gens qui font l'hypothèse que de dire des choses comme ça de façon, avec une telle impunité, ça démontrait qu'il y a un double emploi. On sait pas, on fait l'hypothèse. Mais l'Université McGill en a d'autres précédents. En 2017, son directeur des études canadiennes, Harry Potter, avait dit que la tempête de neige, la mauvaise gestion de la tempête de neige révélait tout ce que le Québec avait de pourri. Une société où il n'y avait aucune communication, aucune confiance, etc. Il avait émis ça dans un journal et il a été suspendu. Il a offert sa démission, qui a été accepté de rechef. Et l'Association des professeurs de McGill Association of McGill Association of University Teachers, la MOLT, s'était révoltée en disant ça a fait atteinte à la liberté d'expression. Est-ce que McGill a peur de l'Association des professeurs de l'Université McGill? La question est posée. Mais une chose est certaine, par exemple. Dans l'histoire de l'humanité de l'Occident, et même pas juste de l'Occident, de l'Orient, du monde arabe, de l'Afrique, les universités sont comme des phares dans les ténèbres. C'est-à-dire qu'ils sont censés être exprimer l'humanisme du monde, la vision. Ils sont censés donner un éclairage. Il y a eu des exceptions. En Union soviétique, par exemple. En Iran, il y a eu des exceptions. En Chine, où le régime détermine ce que l'université va dire. Mais dans un pays occidental, riche et libre comme le Canada, c'est rare en Saint-Siffleux.
Ben, qu'est-ce qu'on attend pour foutre ce gars-là à la porte? Est-ce que tu as regardé, Luc, les valeurs de l'université? Compassion, altruisme, ouverture d'esprit. Ça n'a absolument rien à voir avec les propos tenus par ce type-là. Il y a des actrices françaises, peut-être vous avez vu ça hier, là, Isabelle Adjani, Juliette Binoche, Jane Birkin, qui se coupent une mèche de cheveux en solidarité avec les femmes iraniennes. Faites un sondage ce matin, là. Les femmes du Québec sont complètement consternées, révoltées par ce qui se passe là-bas. Et là, on a une université qui, parce qu'elle ne le réprimande pas, cautionne de facto des propos qui sont complètement irresponsables, qui n'ont rien à voir avec la liberté d'expression. Alors, moi, je pose la question, Luc, où sont justement les professeurs d'université?
En télétravail.
Non, mais honnêtement, puis les étudiants...
Mais c'est vrai que, tu sais, à un moment donné, on se plaignait que les intellectuels en environnement ne descendaient pas dans la rue, qu'ils faisaient des beaux grands rapports, mais tu sais, ouais. Normalement, là, à une certaine époque, des profs d'université, c'est pas juste des enseignants ou des collaborateurs à des revues scientifiques.
Ben,
ça semble qu'ils devraient grimper dans le rideau.
Totalement. Et j'ai perdu mon idée, mais elle va me revenir parce que je l'ai juste au bout de la langue. Vas-y, Nathalie, je reviens, là.
Non, mais en fait...
Là, il faut aller à la pause de toute façon.
Ah merde, attends,
oui, de toute façon,
Monday, là.
Oui, mais la conclusion, c'est que ce type-là devrait être foutu à la porte sans ménagement aucun, et parce que je trouve que c'est honteux pour l'université.
Et même si l'université, c'est ça ce que je voulais dire, Nathalie, même si l'université ne le fout pas à la porte, elle peut juste le suspendre en attendant enquête. Pourquoi pas? Tu le suspends sans salaire en attendant enquête. Tu ne seras pas poursuivi pour ça. C'est quoi la peur qui les empêche de faire ça?
La question est lancée. Merci. À demain.
C'est 23.